cours de philosophie politique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodin, le 2 mars 95.
Longtemps qu'on n'a pas vu de cours sur la famille et l'État, la nation. Alors il y a une question. Peut-on voir dans le juste le principe de la philosophie politique au sens du droit? Oui. Dans le point de vue électoral, on doit toujours se demander si tel homme auquel on vote est en conformité ou non avec notre vie chrétienne. C'est très, très délicat, ça. Parce que dans les élections, il y a toute une série de gens. Et pour nous, un des actes politiques qu'on fait, on ne devrait pas le faire au sens absolu. Un religieux est apolitique. Mais l'Église nous demande de voter. On n'y va par obéissance. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont si peu nombreux pour sauver, sauvegarder le bien autant qu'on le peut, l'Église demande aux religieux, religieuses de voter. Mais autrement, on n'a plus, on n'a pas, on ne devrait pas en tant que religieux. Un prêtre diocésain, oui, mais pas religieux. Un religieux ne devrait pas faire de service armé. Il ne pourrait faire qu'une coopération en tant que religieux. Et l'Église laisse libre. Alors, il faut essayer de comprendre que c'est le bien commun qui seul finalise. Je regrette pour le juste. Mais ça me semble impossible autrement. Réfléchissez bien. L'homme juste conforme à la loi. Vous comprenez? L'homme juste, c'est trop personnel. C'est l'éthique personnelle qui regarde l'homme juste. L'éthique communautaire et politique se sert de l'homme juste pour le bien commun. Et le juste doit être engagé pour le bien commun. Mais ce n'est pas la finalité de l'État, n'est pas de faire des hommes justes. Elle l'implique, mais ce n'est pas sa finalité. Pour que l'État marche bien, c'est très bien qu'il y ait des hommes justes. C'est très bon. Mais ce n'est pas sa finalité. Alors, nous allons continuer cette réflexion sur la famille et l'État. L'aspect politique au sens strict. Le père de famille n'est pas un homme politique comme père de famille. La mère de famille non plus. Même si elle peut avoir un engagement politique. Un député, maire de famille, fait la distinction entre ce qu'elle est comme maire de famille et ce qu'elle est comme députée. Un député ou un maire, père de famille, en tant que père de famille, il n'est pas maire. Vous voyez bien tous les équivoques possibles. C'est ce que fait du reste Aristote avec beaucoup de soin quand il montre que l'autorité du Père, l'autorité de celui qui est à la tête d'une commune, l'autorité de celui qui est à la tête de l'État, ce sont des autorités différentes. Il exerce son autorité en vue de finalités différentes. Tandis que juste est une finalité commune. Le père de famille doit être juste. Le maire doit être juste. Et l'homme politique doit être juste. Donc ça ne me donne pas le caractère spécifique du point de vue politique. famille et favoriser toute espèce de communauté. C'est contraire à la nature. Et c'est mauvais. On n'a pas le droit de l'accepter. C'est quelque chose qui Responsable de l'économie. d'amour, d'amitié entre amis. Il n'y a pas d'autorité. Mais dans une amitié de complémentarité, il peut y avoir autorité. Dans l'amitié d'égalité, il n'y a pas d'autorité. Dans l'amitié de complémentarité, il peut y avoir une amitié. Mais cette amitié, est-ce qu'elle s'impose naturellement? Ou est-ce que cette autorité est comme une espèce de compromis amical selon les compétences, selon la complémentarité? C'est une question qui n'est pas commode du tout et qui est très intéressante aujourd'hui à étudier, qui est difficile. Est-ce que l'époux, l'homme a vraiment autorité naturelle sur l'épouse, sur la femme? Ou est-ce que c'est en raison de certaines conventions, dans certaines coutumes, il y aura un matriarcat, et dans d'autres, il y a un patriarcat? Alors, est-ce que ce sont des conventions qui sont nées avec une habitude, ou est-ce que c'est naturel? Donc là, il y a un problème, je ne le résous pas ici, parce que c'est trop délicat. Trop délicat. Et c'est sûr que l'on va vers ce point de vue-là. Alors est-ce que c'est naturel, ou est-ce que c'est une idéologie d'égalité? C'est sûr qu'il y a une complémentarité. Comme il y a une complémentarité et qu'il y a une œuvre commune. Il y a une œuvre commune à réaliser. La famille. Et ce serait normal qu'il y ait une autorité, mais cette autorité n'est-elle pas divisée? Dans certains domaines, c'est la femme. Dans d'autres domaines, c'est l'homme. Et je crois que si on était complètement lucide et dans la vérité, ce serait beaucoup plus sain que de mettre l'autorité absolue du pater familias, qui est romaine, qui n'est pas grecque, qui est romaine. Mais chez les Grecs, il y a aussi quelque chose comme ça. Ça, c'est très net. Chez Platon, c'est net. Chez Aristote, beaucoup moins, parce qu'Aristote est le premier qui dit qu'entre l'homme et la femme, entre l'époux et l'épouse, il y a une véritable amitié. Et je crois que c'est une des raisons pour laquelle Thomas d'Aquin regarde Aristote pour le service de la théologie, plutôt que Platon. Parce que Platon se heurte à ce que représente l'évangile pour le mariage. Vous ne pouvez pas être platonicien pour le mariage. C'est impossible. C'est contraire à votre vie chrétienne. Et le pater familias aussi, romain. Et c'est l'exaltation de l'autorité. Pour Aristote, il y a une véritable amitié entre l'homme et la femme. Et comme il y a une véritable amitié, il y a une amitié de complémentarité. Et pour que la complémentarité soit parfaite dans l'œuvre commune, il faut, je crois, un partage d'autorité. Autrement, il n'y aurait pas de complémentarité. Mais pour que la complémentarité soit parfaitement respectée, il faut un partage d'autorité. Dans certains domaines, l'homme est plus compétent. Dans d'autres domaines, la femme est plus compétente. Le mari et l'épouse. Ça me semble. Et alors, quand de fait, il y a une confiance absolue de l'un à l'autre dans un véritable amour, ça se fait quasi naturellement. Mais il est beau d'y réfléchir, philosophiquement. Ce qui est sûr, c'est que l'autorité arrive à être suffisamment capable pour orienter leur vie. L'autorité des parents diminue. Ils s'effacent devant le choix de vie. Les parents n'ont pas un droit de choix de vie pour leurs enfants. Si l'éducation se termine à la personne humaine choisit son intention de vie. Vous savez que au Concile de Trente, ça a été très discuté au point de vue chrétien. Les évêques français, les théologiens français et les évêques derrière voulaient que l'autorité des parents joue pour la légitimité du mariage des enfants. Autrement dit, si les parents n'étaient pas d'accord pour le mariage de leurs enfants, sous le choix qu'ils faisaient, le mariage aurait été invalide. Ce sont les évêques espagnols, thomistes, qui ont défendu le point de vue de saint Thomas en disant que l'autorité des parents était limitée et que le choix relevait des personnes qui se marient. Les parents n'avaient qu'un droit de conseil. Donc même si les parents n'étaient pas d'accord du tout, le mariage pourrait serait valide. Et l'Église a suivi ce point de vue-là. Heureusement, vous voyez, qu'est-ce que ça ferait aujourd'hui? Mais c'est intéressant, parce que ça montre que l'éducation s'achève au choix de la vie. Au moment du choix de la vie, l'éducation laisse passer devant ceux qui doivent choisir eux-mêmes. Ce qui n'empêche pas des conseils plus ou moins bien placés. Alors, c'est ici où il y a un gros changement. Les maîtres, le patron, si vous voulez, et l'esclave, puisque l'économie est familiale pour Aristote. Or, cela, est-ce que c'est naturel? Ou est-ce que ça relève uniquement d'une coutume? C'est la question qu'il faut se poser au point de vue philosophique. Hein. Comme lorsque je lis la politique d'Aristote ou de Platon, je dois toujours me poser, est-ce naturel? Ou est-ce que c'est conventionnel? Alors il y a un conventionnel antinaturel, il y a un conventionnel qui précise l'aspect naturel. Il est légitime quand il précise l'aspect naturel. Il est illégitime quand il est contre, c'est sûr. Parce que la personne humaine implique la nature. Alors voyez, ce point de vue de l'économie familiale, ça existe toujours. Mais c'est complètement transformé. Et aujourd'hui, l'économie, elle est au niveau du village. Il y a encore une économie dans certains villages qui existe. Le droit de bourgeoisie en Suisse. Le droit de bourgeoisie est une économie fonds communale au point de la ville. On a un droit à être reçu dans l'hôpital de l'endroit. Droit de bourgeoisie. Et ça se communique et ce n'est pas toujours l'endroit où l'on est, où l'on vit. Et donc il y a l'économie familiale qui s'est transformée en économie communale, puis en économie politique, puis intercommunale et internationale. Alors, c'est là où de fait aussi. Les cigarettes Burus. Bon, c'est quand même un trust familial, Michelin. Un trust familial qui résiste à l'État par des procédés très particuliers. Et c'est intéressant de voir que l'économie familiale demeure toujours. C'est très très curieux ça. D'une certaine manière, il demeure toujours. Là, pour aller au-delà des lois du pays, elle devient internationale. Donc de familial, on saute à l'international. Pour échapper à certaines lois nationales qui feraient que perdrait ses droits au point de vue de la famille. Mais le point de vue international peut, lui aussi, au bout d'un certain temps, changer. Donc, je crois que l'économie familiale, donc le père de famille qui devient le patron d'une exploitation familiale, parce que s'il devient patron d'une exploitation qui n'est pas familiale, il est patron, c'est tout. Ça ne joue pas avec le père, tandis que s'il est père et qu'il est en même temps celui qui a inventé ou qui a fondé une exploitation familiale, on retrouve ce qu'Aristote disait. Les trois relations. Et Aristote dit ça pour sauvegarder l'autonomie de la famille. Dans la mesure où le père est patron de son industrie, de son exploitation. On a l'économie familiale. Je connaissais encore, dans le nord de la France, un lieu où il y avait, de fait, une économie directement familiale, petite économie, artisanale, mais qui relevait encore nettement. Le patron, c'était le père. Et le père était père de famille. Et l'industrie n'est adjointe à la maison. Ça tend à disparaître. Puisque l'économie politique, nationale et internationale devient de plus en plus forte. Donc écrase. Alors, voyez, à la fois, ça diminue l'autonomie de la famille. Et en même temps, ça la rend plus nette. Parce que ce qui est profondément naturel, c'est bien un et deux. Le troisième n'est que médiatement naturel. Je ne veux pas dire que la famille comme famille a des droits sur l'économie. Directement, non. Mais indirectement, oui. A des droits, il y a un patrimoine familial que l'État devrait respecter. Et c'est naturel que les enfants profitent du génie de leur père, du travail de leur père. C'est normal. Donc, vous voyez, il y a quand même un certain fondement naturel sur le patrimoine familial. Même si de fait il est très peu respecté dans beaucoup de politiques d'aujourd'hui. Il faut le maintenir. Pourquoi? Parce que la famille a un droit d'éduquer ses enfants. Elle a un droit de mettre au monde des enfants et un droit de les éduquer. Or, pour les éduquer, il faut avoir suffisamment de biens. Pour les éduquer dans le sens où la famille le veut. Donc, c'est difficile à préciser, hein. Ce droit, je parle au point du droit naturel, hein. Pas les lois. Les lois viennent après pour plus ou moins sauvegarder ce droit naturel, ce patrimoine. y a un certain droit familial au patrimoine familial. Et donc à l'économie familiale, puisque c'est le dernier reste de l'économie familiale. C'est le fond. C'est le patrimoine. Parce que peut-être que le génie qui a inventé quelque chose et qui a fait la richesse du pays, la richesse de la famille, est mort et que les enfants, les fils, ou les petits-fils, ou les arrière-petits-fils, n'ont pas du tout génie leurs grands-parents. Alors, ils dilapident le patrimoine familial. Ils peuvent le dilapider. Et la famille demeure. Donc, vous voyez, le fait que la famille ne soit plus et n'est plus un droit sur l'économie, ça allège la famille. Et donc, ça met en lumière beaucoup plus forte le point de vue de l'amitié de l'époux et de l'épouse. Ça met en lumière l'autorité des parents pour l'éducation. Parce que ça reste naturel. Les parents ont un droit naturel à l'éducation. C'est pour cela, vous voyez, que l'école unique, dirigée uniquement par le pays, une socialisation totale pour l'éducation naturelle, va contre un droit naturel. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Je crois qu'un chrétien n'a pas le droit de voter vis-à-vis de quelqu'un qui serait pour une éducation nationale unique, supprimant toute autre école. Parce que les parents ont le droit de savoir qu'en mettant leurs enfants dans telle école, leur tradition familiale soit maintenue. Selon leur désir d'éduquer leur enfant de telle ou telle manière, de sauvegarder la personne. Mais elle a un problème très important auquel on n'a pas le droit de se désintéresser, ce qui touche le point de vue de l'État et de la famille. Et c'est le point le plus délicat. Alors l'État peut aller très loin dans son autorité vis-à-vis de la famille. En Chine, dans certains cantons, vous savez bien, la famille n'a le droit qu'avoir un seul enfant. Légitime. Les autres ne le sont pas. Ça, c'est une usurpation. L'État n'a pas le droit de faire ça. L'État doit dire que peut-être, au point de vue économique, c'est difficile, alors prendre d'autres moyens. Elle n'a pas le droit de commander sur la procréation, qui est un droit sacré, naturel. Alors ça, c'est des questions très importantes à regarder au plan philosophique. Et au point de vue économique, voir jusqu'où l'État a-t-il le droit de nationalisation. Faut-il échapper à ça? Il y a toutes ces questions-là qui touchent les questions économiques.